Cette prédication est la première d'une série de trois dont le titre général est « Les 70 semaines de Daniel ». Le message d'aujourd'hui a pour titre « Instruction de l'ange Gabriel à Daniel » et compose le premier de ces trois messages. Ce message a été prêché le 30 juillet 1961 dans le Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis d'Amérique. Une introduction de Frère Branham. Arrêtons-nous quelques instants pour expliquer la signification de ces 70 semaines de Daniel, et tout particulièrement la 70e durant laquelle prennent place les événements suivants. Les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, les sept fléaux, les trois esprits impurs, tels que les crapauds, les trois abominables, l'expulsion du dragon rouge et la femme dans le soleil. Sans ces explications, vous manqueriez tout cela. Si nous pouvons découvrir ce que sont ces 70 semaines, nous pourrons connaître quelle en sera la fin. Oh, Dieu aide-nous pour la connaître. Dans les pages qui vont suivre, tout se déroule exactement de telle période à telle période jusqu'à la fin. Pas une minute ne manque, comme notre Dieu est un grand Dieu. Israël revient dans sa patrie. Quel jour Dieu a-t-il choisi pour qu'il soit de nouveau une nation ? C'est le jour où il n'y aura jamais plus de gentils de sauvés. Combien d'entre vous m'ont entendu dire, si vous voulez savoir quel est le jour de la semaine, regardez votre calendrier. Si vous voulez connaître dans quel temps nous vivons, surveillez le temps des Juifs. Extrait tiré des instructions de Gabriel à Daniel. Combien parmi vous ont lu le chapitre 9 de Daniel ? Ils voulaient découvrir avec certitude le moment de leur retour, parce qu'ils voulaient que le peuple soit prêt pour ce jour-là. Aujourd'hui, j'essaie de découvrir à quel moment l'enlèvement aura lieu afin de préparer le peuple pour ce jour-là. Sommes-nous prêts ? Et par des prières et des supplications, nous levons les yeux vers Dieu afin de découvrir ce jour. Seigneur, quelle est l'heure dans laquelle nous vivons ? Extrait tiré des 6 dessins de la visite de Gabriel à Daniel. La réunion commence par ce cantique. Les nations s'écroulent, Israël se réveille, les signes que les prophètes ont annoncés, les jours des gentils sont comptés accompagnés d'horreur. Ô vous les dispersés, retournez chez vous. Le jour de la rédemption est proche, les cœurs des hommes tremblent de peur, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, que vos lampes soient nettoyées et claires, levez les yeux, votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent, ils refusent la vérité de Dieu, que Jésus-Christ est notre Dieu. Cette génération est stimulée par la révélation de Dieu, nous marcherons sur la trace des apôtres. Le jour de la rédemption est proche, les cœurs des hommes tremblent de peur, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, que vos lampes soient nettoyées et claires, levez les yeux, votre rédemption est proche. Voici le message de Frère Branham. Bonjour mes amis. Oh, il fait très chaud dans ce tabernacle, mais il est si glorieux de s'y trouver. Nous sommes si heureux de nous y trouver aujourd'hui pour ce service. Je vous annonce avoir fait une étude sur la 70e semaine de Daniel. Elle est liée du reste du message. Avant de pouvoir vous entretenir sur les sept sceaux qui se réfèrent aux sept sceaux, aux sept fléaux, aux sept trompettes, aux trois calamités, à la femme dans le soleil, à la chute sur la terre de Satan et aux 144 000 juifs. Tous ces événements se situent dans ce temps-là. Je vais donc commencer par cela. Maintenant, il fait chaud ici. Nous n'avons pas l'intention de vous garder trop longtemps dans ce tabernacle, mais juste le temps qui sera nécessaire. Nous espérons qu'un jour, nous pourrons avoir l'air conditionné dans cette salle. Beaucoup de nos ancêtres avaient l'habitude de vivre en plein soleil. Quand il me faut m'excuser auprès de l'auditoire de ne pas posséder une salle climatisée, mes pensées vont en Afrique, où les indigènes se tiennent au milieu des tornades, les femmes ayant leurs cheveux mouillés retombant sur leur visage. Tous restent là, nuit et jour, sans changer de place. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils ne recherchent qu'une seule chose, se tenir à l'écoute pour attraper un ou deux mots du Seigneur de ci, de là. Je me souviens de Mexico, où la chaleur était torride. Les gens s'assemblaient dans le grand stade sans aucun siège pour s'asseoir. dès 9 heures du matin, il y avait là des gens malades, réellement malades, malades à la mort, des cancéreux couverts d'abcès, des mères malades tenant dans les bras de petits enfants qui se mouraient. Et tous ces gens se tenaient là sous un soleil brûlant, sans aucune possibilité de trouver un coin d'ombre. Ils s'appuyaient les uns contre les autres, de 9 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. Et tout cela pour entendre pendant seulement 30 minutes la parole de Dieu qui leur était traduite et pour voir les œuvres accomplies par le Seigneur. Ils étaient assis là, ils attendaient, enveloppés dans de grandes et pesantes gandouras très usagées qu'ils portent été comme hiver. C'est tout ce qu'ils ont. Je pense aussi à ceux qui dans la jungle apportent les malades sur leur dos, à ces Indiens que l'on entasse les uns sur les autres et qui attendent impassibles sous la pluie ou en plein soleil le moment où ils pourront saisir pour leurs âmes un mot de la parole de Dieu. Alors, pourquoi devrions-nous nous excuser de nous trouver ici ce matin dans une salle recouverte d'un toit et rafraîchie par les ventilateurs? Ce serait une honte pour ceux qui s'en plaindraient. Il y a peu de temps, je me trouvais dans une des îles des mers du Sud et je devais avoir une réunion dans la soirée. Soudain, une tornade s'abattit sur la ville. Je n'ai jamais vu une tornade d'une pareille violence. Les éclairs succédaient aux éclairs. Tout le ciel était illuminé. Et les bourrasques de vent étaient si puissantes que les arbres étaient pliés comme couchés sur le sol. Je me disais, je peux me changer, car il n'y aura personne là-bas. Peu de temps après, la voiture qui devait me prendre se rangea devant la porte. Quelqu'un frappa en disant, c'est le moment de partir. Je dis au garçon qui parlait anglais, y a-t-il quelqu'un là-bas? Il me répondit, il y a tellement de monde dans le parc qu'il est impossible d'atteindre les grands immeubles qui le surplombent. Mais voulez-vous dire que les gens sont là-bas, dehors, avec cette tornade? Oui, dit-il, car ils veulent entendre parler de Dieu. Voyez-vous? Alors je me rendis là-bas. Il y avait des dames, des jeunes filles, des adolescentes, assemblées dans une attitude déférente et recueillie. Il n'y avait chez elles aucun sourire moqueur, aucun rire déplacé. Elles ne faisaient pas usage de chewing-gum, elles ne s'entretenaient pas de leur amoureux. Elles étaient là, attentives, ne perdant pas un seul mot de la prédication. Ayant fait un appel que l'on appelle généralement un appel à l'autel, des milliers se levèrent, des larmes plein les yeux, levant les bras à Dieu, voulant obtenir le salut de leurs âmes. Il y avait surtout des jeunes, filles et garçons de 17 à 18 ans qui manifestaient leur joie. Il était à peu près impossible aux gens âgés d'entendre la prédication. Voyez-vous, tout cela, mes chers amis, vous montre que nous n'avons pas à nous plaindre. Ici, nous sommes des privilégiés. Merci, Seigneur. Contentons-nous de ce que nous avons. Je me suis rappelé que dans le temps, avec le frère Neville, nous avions l'habitude dans ce tabernacle de lire quelques psaumes. J'aimerais reprendre cette habitude et je vous propose de lire le psaume 99 avant de prier. Ce matin, quand je me trouvais dans mon bureau, alors que je méditais sur le message et sur la parole, je pensais, comme ce serait bon de lire à nouveau des psaumes dans l'assemblée. Je les aime tant. Voilà la raison de mon léger retard. J'ai lu un long entretien téléphonique venant de Cheyenne, au moment où je m'apprêtais à descendre ici. Le frère Branham donne lecture à l'assemblée de quelques notes de service, puis quelqu'un demande, « Frère Branham, tiendrez-vous d'autres réunions de guérison dans le tabernacle avec discernement ?» Note de l'éditeur. « Oh, non, non, non ! Les discernements seront donnés par notre frère Neville qui est ici et qui possède le don de la prophétie, de ses prophéties concernant les malades et qui leur dévoile toutes choses qu'ils ont besoin de connaître. Il y a également ici le frère Egan Botan qui possède le don de parler en langue et notre charmante sœur Argan Braid qui a le don d'interprétation des langues. Ces messages viennent directement de Dieu car ils sont conformes à son ordre et nous veillerons à ce qu'ils se déroulent dans l'Église conformément à l'ordre donné par le Seigneur dans 1 Corinthiens le chapitre 14 et le verset 27 à 31. La sœur Wood enregistre sur bande le message, puis elle le transcrit pour voir s'il n'y a pas d'erreur. C'est ainsi qu'elle en effectue le contrôle. Je connais bien cette sœur. Elle a également le don de prophétie. Nous lui sommes reconnaissants pour tout cela. Quel soulagement pour moi quand je retourne à la maison. Le discernement sous l'aspect prophétique me fatigue beaucoup, physiquement parlant. Aussi, Dieu, pour me permettre un soulagement, me permet de prophétiser normalement, de parler en langue et d'interpréter. Remarquez que celui qui interprète est un prophète, car il révèle et comprend ce qui a été dit dans une langue inconnue. Il y a donc ainsi deux genres de prophéties. Quand nous avons dans nos réunions des rangées de prières, on m'interroge souvent sur ce don. Oui, je le possède toujours, mais la seule façon dans laquelle je l'emploie, c'est au cours d'entretiens privés. Pour ceux qui désirent ce genre d'entretien, adressez-vous à mon fils Billy Paul, qui est également mon secrétaire. Il vous donnera une petite carte à remplir pour fixer le jour et l'heure du rendez-vous. S'il s'agit d'un entretien demandé par une sœur, ma femme m'accompagnera et tous ensemble nous rechercherons le Seigneur pour lui demander son aide afin de savoir ce qui doit être fait. Pour les cas d'importance mineure, nos frères Neville et Higginbotham ainsi que notre sœur Argan Bright sont à votre entière disposition, sans oublier tous ceux qui dans cette assemblée parlent en langue ou interprètent. Et c'est ainsi journellement. Je pense que c'est Jéthro qui dit un jour à Moïse, « Prenons quelques anciens. » Alors, l'Esprit de Dieu passa de Moïse sur 70 des anciens et ils prophétisaient. À Moïse seulement était réservé le principal. Ici, nous ne sommes pas Moïse et mes frères et sœurs ne sont pas les 70 anciens, mais nous servons tous le même grand Dieu Jéhovah, conduit par la même colonne de feu qui nous dirige vers la terre promise. Oui, il y aura d'autres réunions, d'autres interprétations et d'autres discernements. Cela me permettra de prier, d'étudier les jours prévus pour ces entretiens, afin que je sois prêt à ce moment-là. Ainsi donc, mettez-vous en rapport avec mon fils Billy Paul et prenez note de ce qui est affiché sur le tableau d'information au fond de la salle. Et maintenant, ce matin, nous avons une grande leçon à apprendre, dont nous essayerons de poursuivre l'étude ce soir. Et dimanche prochain, Dieu voulant, nous en examinerons une autre sur le même sujet, Daniel. Ce n'est qu'en approfondissant cette étude sur Daniel que je me suis rendu compte de son importance et de sa profondeur. Et je vous dirai qu'actuellement, pour moi, cela reste un grand mystère. J'implore l'aide du Seigneur pour venir à mon aide. Maintenant, prenez vos Bibles au psaume 99. Je lirai le premier verset. L'Assemblée lira le second verset, puis je lirai le troisième verset, et nous procéderons ainsi jusqu'à la lecture du dernier verset. Levons-nous pendant que nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples, qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exaucas. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Courbons nos têtes. Véritablement, Seigneur, tes paroles ont été écrites et rédigées par ton serviteur David dans un psaume qu'il t'adressa. Tu étais assis entre les chérubins, tu es saint et ta colline est sainte. Que nous puissions nous approcher de toi, nos cœurs aspergés du sang du Seigneur Jésus, avec une conscience pure, avec une foi et une assurance qui nous donnent la conviction que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Que tous ceux qui sont ici écoutent avec révérence. Ouvre les oreilles de notre compréhension. Parle-nous en sagesse, afin que nous puissions connaître quel doit être notre comportement en ta présence et durant ces jours que nous vivons. Nous aimerions te demander de nous révéler ces choses secrètes qui sont restées cachées durant toutes ces années, alors que nous allons examiner un des plus sincères et solennels passages de ta parole. Tu en as parlé, Seigneur, quand tu étais sur la terre parmi nous, tu as dit que celui qui lise, qu'il puisse le comprendre. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons à toi avec une grande humilité pour rechercher ta sagesse, ne sachant pas quoi te dire. Rétablis dans leur signification ces quelques écritures. Solennellement et entièrement, nous te faisons confiance pour nous répondre, afin que nous puissions connaître l'heure que nous vivons, afin d'être préparés à la venue des grands événements qui se préparent. Veux-tu exaucer notre prière? Nous te le demandons dans le nom de celui qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière fut dite par toute l'Église en même temps que frère Branham. Note de l'éditeur. Et maintenant, vous tous, mettez-vous à l'aise par cette grande chaleur. Quant aux enfants, qu'ils rejoignent leur chambre, car ce matin, il n'y aura pas d'école du dimanche. Les locaux sont bondés. Ce matin, nous allons aborder un message d'une importance capitale. Et c'est avec une grande humilité que nous le faisons. Dieu voulant, ce matin, le sujet de notre prédication sera la 70e semaine de Daniel. Nous parlerons de la captivité de Daniel à Babylone et de la venue de Gabriel qui révéla à Daniel les événements à venir dans le futur. Pendant que Daniel était en prière, il fut visité par l'ange Gabriel pour l'enseigner. Ce soir, je vous parlerai sur les 6 raisons de la visite de Gabriel à Daniel. Il s'agira des 6 différents sujets ayant motivé la venue de Gabriel. Dimanche prochain, Dieu voulant, je vous parlerai du pourquoi et du temps des âges et cette église, des époques correspondant à chaque église, et je vous indiquerai où nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai apporté devant moi quelques notes de mes derniers messages. Ce matin, je les consulterai, car ce que vous allez entendre sera enregistré sur bande magnétique et diffusé dans le monde entier. Depuis des mois, nous étudions le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Nous avons lu les âges de l'Église, les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse concernant les 7 âges de l'Église. Dans les chapitres 4 et 5, l'apôtre Jean est ravi en esprit dans les lieux célestes où il lui est dévoilé les événements à venir. Au chapitre 6, Jean revient sur la terre pour assister aux événements qui se dérouleront depuis Apocalypse chapitre 6 verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 19 et le verset 21. C'est là que résident les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 3 abominables, les sauterelles, la femme dans le soleil, l'explosion du dragon rouge qui tombe sur la terre, les 144 000 juifs scellés du sceau, et toutes ces choses-là. Cette dernière semaine que nous venons de passer fut extrêmement studieuse. Hier, durant toute la journée, je n'ai pour ainsi dire pas quitté mon bureau, penché sur cette étude. Je me disais, dans tous ces chapitres de l'Apocalypse se trouvent les 70 semaines de Daniel. Mais auparavant, je n'essayais pas de m'en emparer pour les expliquer. Mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu, j'ai pris sur moi-même d'essayer d'implorer la grâce de Dieu afin que je sois en mesure de vous apporter ce message. Et dans ces passages, m'ont été révélées des choses que j'ignorais totalement. J'avais pris connaissance auparavant des livres du docteur Larkin, du docteur Smith de l'Église Adventiste, des notes de Scofield, des commentaires de différentes personnes du monde entier, et cependant, il m'avait été impossible de tirer une conclusion valable de tout cela. Voyez-vous, cette semaine, j'avais formé le projet de visiter les librairies du Kentucky pour dénicher des écrits concernant l'ancienne astronomie, des calendriers des époques et tous les vieux livres anciens que je pourrais trouver. Mais c'est en Jésus-Christ que j'ai mis toute ma confiance pour que lui-même m'apporte toutes les révélations nécessaires, car je ne veux pas qu'il soit dit « Je sais ceci et je sais cela ». Lui connaît mon cœur, il m'écoute, et ce que je veux, c'est de pouvoir éclairer son peuple. C'est pourquoi je pense qu'il exaucera ma prière. Je ne le sais pas encore, je pense qu'il exaucera ma prière, mais je compte sur lui dimanche prochain, car ce jour-là, ce sera le point culminant de cette prédication, celui de connaître et de placer ces 70 semaines. Chaque semaine a sa place réservée, et quand vous le savez, vous vous y précipitez, et elles ne se signalent pas clairement, et vous ne pouvez les situer au premier coup d'œil, c'est impossible. Peut-être moi-même serais-je incapable de les saisir d'emblée, mais je compte sur le Seigneur pour cela. Souvenez-vous de Salomon dans sa prière. Il demandait au Seigneur Dieu de lui donner la sagesse, non pour lui-même, aucun prolongement de ses jours, pas de richesse, mais pour qu'il puisse posséder la sagesse pour savoir comment juger la parole de Dieu. Dieu honora cette prière et il donna à Salomon cette sagesse parce que c'était pour son peuple. C'est pourquoi je demande à Dieu de me faire connaître la signification de ces 70 semaines, car je sais quel est le calendrier exact pour l'âge que nous vivons. Nous tous, vous et moi, nous désirons savoir où nous vivons et dans quel temps nous vivons. Certains ont dit que la 70e semaine prendrait fin en 1919. Ce n'était pas vrai, car à ce moment-là, tout est terminé, c'est fini. Alors, nous voulons connaître la vérité, et je demande à Dieu de me donner la vérité. Maintenant, pour vous permettre de mieux comprendre, revenons un peu en arrière. Je regarde mes notes concernant les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. Rappelez-vous que Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22, concerne l'église de Laodicée. Nous vivons actuellement dans cet âge, le septième. C'est à la fin de cet âge que l'épouse doit être enlevée. J'essayais d'expliquer à ma femme quelque chose à ce sujet. Ma fille Becky cherchait une réponse dans tous les dictionnaires qu'elle possédait. Aucune réponse. Je me sers du dictionnaire biblique, du dictionnaire du grec ancien, du dictionnaire Webster et d'autres dictionnaires modernes. Aucune réponse à ce sujet. Ma femme me dit, « Comment t'imagines-tu que notre peuple, composé de pauvres gens, dont beaucoup sont comme nous, sans instruction, puisse comprendre une pareille chose ?» Je lui répondis, « Dieu donnera la réponse. Il n'existe rien, aussi compliqué soit-il, que Dieu ne puisse briser et rendre simple. Car nous sommes une partie de ces peuples qui ont soupiré, qui ont prié pour ce jour et cette heure. Nos yeux sont tournés vers les cieux et nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et je suis persuadé qu'il nous éclairera. Évidemment, il ne dira ni le jour ni l'heure de sa venue parce que personne ne peut le savoir. Mais il pourra nous dire le jour de la semaine que nous vivons si nous pouvons seulement l'obtenir. » Dans le 4e chapitre de l'Apocalypse, Jean fut enlevé immédiatement après l'épouse. Jean, en s'élevant, vit le complet âge de l'Église. J'en profite pour m'arrêter une seconde à ce sujet, afin de détromper ceux qui s'attendent à des événements formidables et extraordinaires dans l'âge des gentils. Tout ce qui doit se passer durant les sept âges de l'Église est rapporté dans les trois premiers chapitres de l'Apocalypse. Alors l'épouse est enlevée, et du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, il n'est question que de ce qu'il arrivera à la race juive. Quand l'épouse est enlevée, c'est le temps de la grande tribulation qui commence. Rien de particulier ne sera signalé concernant les gentils, si ce n'est les massacres et tout le reste, comme nous le verrons au cours de ce message. L'épouse est enlevée au dernier verset du 3e chapitre de l'Apocalypse, à la fin de l'âge de l'église de Laodicée, qui est le 7e âge. Le dernier, nous allons examiner chaque âge de l'Église, chaque moment, chaque chose, chaque étoile, chaque messager, leur nature, ce qu'ils ont accompli, et tout suivre au travers de l'histoire jusqu'au jour où l'écriture manuscrite apparaîtra sur le mur. Quand nous aurons terminé cette étude, le Saint-Esprit viendra pour confirmer tout ce que je vous aurai dit, et il révélera lui-même devant nous tous ces mystères. Je suis persuadé qu'au terme de cette étude, il viendra, porteur d'un signe extraordinaire, pour nous montrer de nouveau que nous sommes à la fin des temps. Combien parmi vous ont entendu dire par le président Kennedy dans son dernier discours que le 1er janvier prochain, selon des prédictions humaines, les États-Unis et la Russie seraient toutes deux réduites en cendres volcaniques? Nous sommes si près de l'explosion du monde que même des hommes se sentent poussés à prédire de tels cataclysmes. Soyons donc sur nos gardes, mettons-nous en règle devant Dieu, toute confession effectuée pour être prêts, car nous ignorons l'heure choisie par Dieu pour nous appeler. Quand il donnera cet ordre, montez plus haut, ce sera à l'improviste, au moment que vous ignorez, soyez donc prêts. Le grand réveil des pentecôtistes est actuellement terminé. Nous avons assisté à ce grand mouvement. Le message a été donné. Tout est prêt maintenant. Attendons. L'épouse est scellée, prête au départ. Les méchants le deviennent de plus en plus. Les églises s'organisent encore davantage et les saints se rapprochent de Dieu et les dons de l'Esprit se multiplient dans les petits groupes. Nous sommes à la fin de cet âge. Oh, comme j'aime ce cantique! Je guette la venue de ce jour heureux du millénium, quand notre bien-aimé Seigneur viendra prendre son épouse qui l'attend. Oh, mon cœur pleure, avide de ce jour de douce libération, quand notre Sauveur viendra de nouveau sur la terre. Nous attendons cette heure. Dans notre leçon précédente, dans le 5e chapitre de l'Apocalypse et au verset 5, nous avons parlé de celui qui a le droit de rachat, de Jésus-Christ. Nous trouvons ce type dans Ruth. Ruth s'est décidée, Ruth sert, Ruth se repose. Se décider correspondait à la justification. En servant, elle était prête, c'était la sanctification. Se reposer, c'était être avec le Saint-Esprit, jusqu'à ce que le repas de noces soit prêt. Oh, comme tout cela est beau! Au travers de Martin Luther, l'Église connut la justification. Au travers de John Wesley, ce fut la sanctification, et au travers de la Pentecôte, ce fut le baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, dans le repos, nous attendons la venue du Seigneur. Et maintenant, c'est ce qui est parfait. Les anciens d'Apocalypse, chapitre 5, étaient dans le vrai, quand ils dirent de notre divin Rédempteur qu'il était un agneau qui se transformerait en un lion pour juger. Il était un agneau, jusqu'au moment où il prit dans ses mains le livre scellé des sept sceaux. À cet instant même, son action de médiateur, d'intercesseur fut terminée. À la fin de l'Apocalypse, chapitre 3, l'épouse a été enlevée. Mais comment cette rédemption s'est-elle effectuée? Apocalypse 5 nous en donne la révélation. Nous voyons dans ce chapitre 5 comment le Seigneur s'y prit pour cela, ce qui s'est passé, comment l'épouse scellée fut enlevée. Ce fut par la révélation de son nom. Le baptême d'eau prit en son nom la vie éternelle, l'absence d'un enfer éternel, la semence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines dont celle de la prédestination de l'épouse. Voilà tout ce qui fut révélé à l'épouse, et voilà comment Jésus est intervenu pour que son épouse soit prête pour l'enlèvement. Voici donc notre Rédempteur recevant de Dieu lui-même le livre de rédemption fermé de sept sceaux. L'agneau vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur ce trône. Qui était cet agneau? C'était notre Rédempteur, le Rédempteur de l'épouse, et qui racheta Israël. Ce matin, nous allons nous expliquer sur ce sujet. C'était Israël qui devait être racheté, mais il ne le fut pas du fait de son rejet du Messie. La rédemption fut alors accordée à l'épouse. Jésus nous a rachetés. Comme Boaz devait payer à Naomi le droit de rachat concernant Ruth la Moabite, qui était une étrangère, une païenne, ainsi Jésus-Christ racheta Israël pour qu'il puisse recevoir la rédemption, mais le Christ fut rejeté. Je vous ai parlé il y a quelque temps de ce brave homme qui, pendant la guerre civile, avait été condamné à mort bien qu'innocent. Un de ses amis demanda sa grâce au président Lincoln et l'obtint. Cette grâce fut rédigée sur une simple feuille de papier, ne portant aucun cachet. Pardonnez un tel, et c'était signé Abraham Lincoln. Quand cet ami rejoignit le prisonnier dans sa prison, il lui dit « Ah !» L'autre la refusa parce qu'il n'y avait aucun cachet sur la note. Ce qu'on lui présentait était sans valeur à son avis. Le lendemain matin, il fut fusillé. Ce cas particulier fut examiné par la Cour fédérale de justice des États-Unis, qui tira la conclusion suivante. Un pardon n'est pas un pardon à moins d'être reçu comme un pardon. Au calvaire, Jésus-Christ racheta Israël. Mais pour Israël, ce n'était pas le pardon de ses fautes, parce qu'il ne le reçut pas comme un pardon. Nous verrons dans la leçon d'aujourd'hui concernant les 70 semaines qu'il se repentira et il sera pardonné. Par contre, Jésus-Christ racheta l'épouse. Voilà pourquoi nous sommes pardonnés, parce que nous avons reçu et accepté le sang de Jésus-Christ comme notre pardon. Nous avons vu dans Apocalypse, chapitre 5, verset 7, que Jésus était celui qui nous avait rachetés. Il prit des mains de celui qui était assis sur le trône ce livre qui était un document, un titre de la rédemption. Et en mourant sur la croix, Jésus-Christ le juste s'acquit ainsi un titre qui lui permettra de briser les sceaux, de révéler leur contenu et de désigner son peuple comme héritier de tout ce qu'il possède. C'est ainsi que la vie éternelle dont il avait hérité, il la partagea entre nous tous par les soins du Saint-Esprit. Amen. Personne au monde ne pourra jamais imaginer l'amour qui était en lui pour toutes les souffrances qu'il a endurées afin de pouvoir nous donner sa vie, la vie éternelle. Satan, prince du monde depuis la chute dans le jardin d'Éden, finit par être lié et précipité dans le lac de feu. Ses jours sont terminés. Dans l'évangile, Jésus a quatre titres. Il est fils de David, héritier du trône, fils d'Abraham, le don royal, fils de l'homme, héritier de la terre, et fils de Dieu, héritier de toutes choses, le don royal. Dans l'Ancien Testament, tout propriétaire de biens ne les possédait que pendant une période de 50 ans. Jésus-Christ a payé le prix le 40e jour, et le 50e jour, la rédemption et la puissance qui appartenaient à l'Église et qui avaient été perdues au Jardin d'Éden furent rachetées de nouveau pour nous être données dans le baptême du Saint-Esprit le 50e jour. De quelle façon ces rouleaux furent-ils remis à Jésus? De la même façon que les actes d'achat signés et scellés par Jérémie et concernant le champ d'Ananaël, son cousin, ils furent conservés dans un vase de terre. Cela montre que la puissance de Dieu, celle de la parole et les secrets de Dieu sont connus dans le cœur. De même, notre plan de rédemption est conservé dans des vases d'argile. Le nom de Jésus-Christ est la révélation. Tout cela était inscrit dans sept rouleaux, scellés de sept sceaux. Chaque sceau enveloppait le rouleau. Le temps de la révélation étant venu, Jésus tira le premier sceau, l'ouvrit, et il lut ce qu'il contenait. Il fit de même avec les six autres sceaux, et il connut ainsi ce qu'était la révélation des choses cachées. C'est ce que prochainement nous étudierons, Dieu voulant. Le nombre 5 représente la grâce de Dieu, et le nombre 7 représente la perfection. Le chiffre 5 se trouve dans le plan de la rédemption. Ici, nous avons sept sceaux qui se rapportent à cinq événements. Les sept sceaux, les sept esprits, les sept anges, les sept trompettes et les sept âges de l'Église. Nous trouvons la grâce alliée à la perfection. Chaque sceau brisé dans la parole de Dieu révèle à l'homme de chaque âge dans quel âge il vit, quel est l'esprit de cet âge, quelle est l'Église de cet âge. Dans le 10e chapitre de l'Apocalypse, quand le 7e sceau, le dernier, est brisé, nous trouvons l'ange qui se tient debout, un pied sur la terre et l'autre sur la mer. Il lève ses bras vers les cieux et sa tête est surmontée d'un arc-en-ciel. Il jure par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Nous verrons dans l'étude des sept sceaux ce qui concerne le 7e sceau. Quand vous aurez découvert ce que sont les 70 semaines de Daniel, vous verrez ce que représentent les sept sceaux. Le temps est terminé. La rédemption s'arrête là. L'agneau est transformé en lion, en juge. Aujourd'hui, Jésus est encore votre sauveur, mais un jour, il sera votre juge. Le verset 8 du 5e chapitre de l'Apocalypse révèle le moment pour l'agneau où il est adoré et dans les cieux et sur la terre. Le verset 8 au verset 14 de ce chapitre 5, c'est la révélation de ce qui se passe après l'ouverture du 7e sceau. L'agneau de grande valeur, le rédempteur, tous l'adorent, les anges, les anciens, tous les quatre êtres vivants. Et l'apôtre Jean l'adore tant qu'il dira, toute créature dans le ciel, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve disait, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. C'était le temps de l'adoration pour l'agneau roi. À ce moment-là, l'épouse a été enlevée, ne l'oubliez pas. Et maintenant, lisons la parole de Dieu dans le chapitre 9, les versets 1 à 4, dans le livre de Daniel. la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Ça, cela s'arrête au verset 19, mais pour gagner du temps, alors que chacun reste debout, venons-en au verset 20 de ce, jusqu'au verset 27 de ce 9e chapitre de Daniel. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Oh, comme nous aurions voulu assister à cela, comment l'ange Gabriel trouva-t-il Daniel? En prière, Daniel parle de l'homme et non de l'ange. Poursuivons notre lecture dans Daniel 9, 23-27. « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les rues et les remparts seront rétablis, mais en des temps troublés. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et la fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, commettra les choses les plus abominables jusqu'à la fin des temps. Alors, un arrêt de destruction s'abattra sur lui. Voilà quel sera le sujet de notre leçon durant les prochaines réunions. Il y en aura peut-être 3, 4 ou 5, autant que le Seigneur le révélera, 70 semaines. Je demande à Doc s'il veut bien ce soir apporter ici mon tableau noir pour me permettre des inscriptions. Il ne faut pas que vous manquiez ces enseignements. Il vous faudra étudier avec moi et étudier en profondeur, sinon vous n'y comprendrez rien. Prenez avec vous du papier et des crayons pour recopier les indications que j'écrirai sur le tableau. Date, période, nom, etc. Rappelez-vous que la 70e semaine commence après l'enlèvement de l'épouse. Que tous ceux qui ont bien compris ce que je viens de dire disent Amen. Bien. Les textes d'Apocalypse, chapitre 6, verset 1 jusqu'à Apocalypse 19, 21, concernent ce qui se passe dans la 70e semaine de Daniel. Arrêtons-nous donc un moment pour vous donner un complément d'information avant d'aller plus loin. Il est indispensable de connaître à fond les 70 semaines de Daniel, et en particulier la 70e. Sinon, vous manquerez ces sauts, vous manquerez ces trompettes, vous manquerez ces coupes, ces fléaux, ces trois esprits impurs tels que les crapauds, ces trois abominables, le parachutage du dragon rouge sur la terre, la femme dans le soleil. Vous manquerez tout cela, car ces événements ont lieu durant la 70e semaine. Voici maintenant quelques précisions que vous pouvez noter. Le prophète Daniel est resté exactement 68 ans dans Babylone. Il partit là-bas en captivité en l'an 606 avant le Seigneur Jésus-Christ. Et la vision lui fut donnée en l'an 600-538, donc 68 ans après. Il est resté 68 ans parmi les païens. Il est resté fidèle à son Dieu. Et toujours, il a remporté la victoire. Amen. Il vécut au centre même du paganisme, avec 3 compagnons seulement, et eux se trouvaient dans différentes parties du royaume. Mais Daniel, se tenant seul avec Dieu, remporta la victoire pendant 68 ans. Pensez-y. Oh, je ne veux pas commencer à prêcher, car je désire vous donner un message d'enseignement. Mais pendant 68 ans, il avait conservé la victoire, et il vécut sans souillure devant Dieu, sans posséder le baptême du Saint-Esprit, et sans avoir recours au sang de Jésus, afin qu'il intercède pour lui. Par suite des traditions païennes en usage dans ce pays, il ne pouvait que recourir en cachette au sang des taureaux, des boucs et des génisses. Ces mêmes traditions sont venues jusqu'à nous. Jérémie l'avait prophétisé. Quant à Daniel, dès le début, il se rendit compte que le temps de la fin se rapprochait exactement comme il en est aujourd'hui pour nous. Il s'en aperçut à la lecture des livres, suivant Daniel 9:2. La première année du règne de Darius, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Vous vous souvenez qu'en ces jours, il y avait un autre prophète, du nom de Hanania, qui vint et dit à Jérémie, « Tu te trompes, Dieu ne gardera Israël en captivité que durant 2 ans. » Et Jérémie répondit, « Amen, qu'il en soit ainsi. » Puis il poursuivit, « Mais attends une minute, Hanania, de nous deux, l'un est un faux prophète, souviens-toi. » Il y a eu des prophètes qui ont prophétisé en notre présence, et ce qu'ils ont dit était faux. Dieu s'en occupa pour avoir dit des mensonges. Mes frères et sœurs, cherchons la vérité. Le Seigneur m'a dit à moi, Jérémie, que la captivité sera de 70 ans. Le faux prophète Hanania fut châtillé par Dieu, qui reprit sa vie cette même année. Car Dieu avait réellement dit à Jérémie, son vrai prophète, que cette durée serait de 70 ans. Considérez l'attitude de Daniel. Bien qu'il était un étranger dans ce pays, chassé par ce peuple, chassé de sa propre église, sans aucun service religieux, sans église à fréquenter, sans hymne à chanter, ce que Daniel pouvait chanter au mieux de tout cela le confirmait dans ce que ce prophète avait dit. Amen, amen. Il n'avait aucune église à fréquenter, aucun ami. Tous les autres se rendaient dans les temples païens. Chacun adorait sa propre idole. Il n'y avait pas de psaume à chanter. Personne ne croyait la même chose que lui. Daniel avait 12 ou 14 ans à son arrivée à Babylone, et durant 68 ans, il fut toujours fidèle à Dieu. En lisant Jérémie, il avait compris que la fin des temps était proche. Quel avertissement pour le cœur de tout véritable prophète de Dieu, de constater la véracité des paroles prononcées par Daniel, et de savoir que nous vivons aujourd'hui les dernières heures de l'humanité. Suivons l'exemple de ce vrai prophète du Seigneur. Que l'Église du Dieu vivant soit persuadée de l'imminence du retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de son règne ici-bas dans le millénium. Réveillons-nous. Comment pouvons-nous perdre notre temps en le gaspillant le dimanche tout particulièrement? Nous ne trouvons pas de temps à consacrer au Seigneur. Mais pour les sports, les jeux, les distractions de toutes sortes, le temps est trop court. Si nous nous rendons dans une église, si la prédication dure trop longtemps, nous sommes mécontents. Si le pasteur insiste sur tel ou tel point qui ne nous convient pas, vous quittez votre place et vous sortez. Voyez quelle est notre misérable condition devant le Seigneur. Comparez nos vies avec celles du prophète Daniel. Tout seul, dans un pays sans temple, sans compagnon d'adoration, il fut déchiré et brûlé. Et cela pendant 68 ans. Il restait donc 2 ans de captivité pour atteindre les 70 prévus. Quand après avoir lu le livre, il comprit que les temps étaient prêts d'être accomplis, il se présenta devant Dieu dans la prière pour en connaître davantage. Quelle époque! Que faisons-nous aujourd'hui quand les nations sont dressées l'une contre l'autre, quand la mer gronde, quand le cœur de l'homme tremble de peur dans la perplexité actuelle? L'écriture à la main se lit sur le mur, comme du temps de Nabuchodonosor. Nous assistons aux luttes raciales. Toutes sortes de démons sévissent dans le monde. Partout, ce ne sont que révoltes, combats, confusions. Les armes de toutes sortes sont gardées en réserve à tel point qu'une petite nation de la taille de Cuba est capable de détruire le monde entier en l'espace de 10 minutes. Voilà. Ce sont des hommes qui se disputent les uns les autres, des hommes incrédules qui ne connaissent ni Dieu ni sa puissance. Comment pouvons-nous être aussi inconscients alors que le Saint-Esprit dans les églises après 2000 ans se manifeste à nouveau, vivant parmi les élus, et que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'heure que nous attendons est toute proche. En ce temps-là, Daniel lut le chapitre 25 de Jérémie. Faisons de même, en commençant au verset 8. C'est pourquoi « Ainsi parle le Seigneur des armées ». Oh, j'aime cela, mes amis. Quand je vois un prophète se lever et commencer par « Ainsi dit le Seigneur Dieu », c'est cela. Pour moi, tout est réglé, tout est en ordre. Reprenons notre lecture. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nabucodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ses nations, alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Rappelez-vous qu'ici, Dieu s'adresse à ses élus et non pas à des infidèles. Il s'adresse aux membres de l'Église. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Comme aujourd'hui, nous avons le rock'n'roll, Riquet et Elvis, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Écoutez ce que dit le prophète Jérémie. Tout ce pays deviendra une ruine. Je ne veux pas plagier ce grand serviteur de Dieu, mais je prophétise que cette nation entière, les États-Unis, deviendra une ruine. Dieu punira cette nation pour ses péchés. Si Dieu n'a pas épargné Israël, son peuple élu, la semence d'Abraham avec qui il avait fait alliance avec promesse, s'il ne l'a pas tenu quitte de ses manquements, bien qu'Israël était religieux jusqu'à la racine, possédant de grandes synagogues avec leurs prêtres et leurs rabbins, si Dieu ne l'a pas épargné, c'est à cause de son immoralité. Et voilà pourquoi le peuple a récolté ce qu'il avait semé. Il en sera de même pour nous. Poursuivons notre lecture. Jérémie 25, 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Quel est notre étonnement? L'on dit, voilà où ils en sont. Et pourtant, ils étaient si grands, si puissants. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est le temps d'une génération. Au début, c'était l'époque où votre propre mère était un bébé, et maintenant elle est une vieille femme. Pendant toute cette période, les croyants n'avaient ni église, ni chant, ni Dieu, jusqu'à ce que la génération pécheresse soit éteinte. Mais lorsque les 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Autrement dit, Jérémie, je t'ai donné un message, ne reste pas immobile, ne reste pas dans un endroit seulement, mais va prophétiser à toutes les nations. Comprenez-vous, mes amis? Prophétise à toutes les nations, montre-leur mes signes et mes miracles, et avise-les de ma prochaine venue pour accomplir tout cela. Ils boiront et ils chancelleront et ils seront comme fous à cause de la parole que j'enverrai au milieu d'eux. Et aujourd'hui, que font-ils? Ils vous traitent de faux prophètes, de trouble-fêtes, de fanatiques, de fabulistes, d'un songe creux, d'une sorte de télépathiste. Et tous ces contestataires sont des fous et des insensés. À cause de la parole de Dieu que je leur apporte, ils disent, ne faites pas attention à ce qu'il dit, il est timbré. Voyez-vous, l'histoire se répète. Jérémie n'était pas d'accord avec les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, quels qu'ils fussent. Il leur apporta la parole de Dieu et il fut traité de fou. Qu'en fut-il? Écoutez bien Jérémie chapitre 25 verset 17. Et je pris la coupe de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. Voyez-vous, Jérémie se déplaçait, il ne restait pas au même endroit, mais il fit en sorte que toutes les nations en bussent. Jérémie prit la parole de Dieu, qui est le vin de sa parole. Le vin, c'est la puissance de la parole. Le vin a un pouvoir en puissance. Et j'ai pris la parole du Seigneur, disait Jérémie, et je l'ai rendue manifeste. La puissance qui se trouve dans le vin, je l'ai dévoilée, je l'ai manifestée, mais ils ne voulurent rien entendre. Alors Dieu dit, alors je les enverrai à Babylone pour 70 années. C'est ce qu'il fit. Les justes et les injustes furent emmenés, aussi bien les uns que les autres. Et maintenant, revenons à notre leçon. Daniel a lu exactement les mêmes mots que vous venez d'entendre ce matin. Daniel a lu la même Bible, les mêmes phrases, les mêmes choses que je vous lirai également dans les leçons prochaines, Dieu voulant. Tout cela pour vous montrer que nous sommes arrivés à la fin des temps. Et Daniel, ayant pris la parole de Jérémie, descendit à Babylone, où il fut un prophète, le prophète. Amen. Il resta seul. Daniel interpréta la parole de Jérémie qui avait été écrite il y avait bien des années auparavant et il se dit, réfléchissons quelques instants. Nous approchons de la fin de cette longue épreuve. Il y a 68 ans que je suis à Babylone et le véritable prophète de Dieu, amen, mon frère Jérémie, a prophétisé que cette période de captivité durerait 70 ans. Ainsi, Seigneur Dieu, nous approchons de la fin de cette époque durant laquelle la génération responsable de ta colère aura disparu. Que vas-tu faire maintenant, Seigneur ? Daniel se mit alors à genoux pour prier. Ô Dieu ! Invoqua alors le frère Branham. S'il y a jamais eu une époque où nous devrions faire notre examen de conscience et te prier, c'est bien la nôtre. Suivant cela, Daniel, ton véritable serviteur, c'est en relisant les lettres des apôtres et à la suite des avertissements du Saint-Esprit que nous savons que nous sommes actuellement dans les derniers jours. Le Saint-Esprit a annoncé que dans les derniers jours, suivant 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5, les hommes seraient hautains, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu, calomniateurs, insensibles, emportés, ennemis des gens de bien. C'est exact. Je sais qu'il y aura des moqueurs dans les derniers jours. Je sais qu'à ce moment les nations se dresseront l'une contre l'autre. Je sais qu'il y aura des raz-de-marée, des signes de terreur dans le ciel, tels que des soucoupes volantes et d'autres signes mystérieux, et que le cœur des hommes tremblera de peur. Il y aura à ce moment-là de l'anxiété, et la confusion sera générale, et une grande détresse saisira l'humanité tout entière. J'ai compris. Ils entreront dans les organisations humaines, les dénominations, et dans les derniers jours, ils se rassembleront dans une confédération mondiale des églises. J'ai compris qu'à cette époque-là, les femmes couperont leurs cheveux. Elles porteraient des mini-jupes. Elles auraient des talons à aiguilles à leurs chaussures. J'ai compris que la morale serait très basse dans les derniers jours, que les prédicateurs seraient de mauvais bergers, habitués au compromis, ne donnant pas la parole de Dieu comme nourriture à ses brebis, mais lui préférant des credos et des traditions humaines. Mais j'ai compris aussi qu'une voix s'élèvera dans les derniers jours, criant dans le désert et ramenant le peuple au message original, au retour des choses de Dieu. J'ai compris en lisant la Bible, la parole, que tout cela arrivera dans les derniers jours. Dans les derniers jours, j'ai compris également qu'il y aurait la famine, non seulement de pain et d'eau, mais également de la parole de Dieu. Tous iront de l'est à l'ouest, du nord au sud, pour écouter la véritable parole de Dieu, mais les églises seront si liées et organisées qu'ils ne pourront pas l'entendre. Mais en ce jour, ô Dieu, il y aura le rejeton de David qui s'élèvera. J'ai compris que le Seigneur enverra Élie en Israël, peu avant ce jour de la fin, porteur d'un message qui ramènera le cœur des enfants vers leur père, afin qu'ils reviennent à l'original, au point de départ. J'ai compris que cela se produira peu avant que le Saint-Esprit abandonne l'Église des gentils pour se tourner et se manifester chez les Juifs. Dans la parole de Dieu, il a été prophétisé le retour d'Israël dans sa patrie, et de mes yeux, j'ai constaté ce retour. J'ai compris par les récits des prophètes qu'Israël redeviendrait une nation, qu'il rétablirait l'adoration dans le temple. Dieu va s'occuper de nouveau de lui dès sa réinstallation dans son pays. Deux prophètes vont le visiter dans les tout derniers jours. J'ai compris tout cela dès l'enlèvement de l'épouse, les deux prophètes seront là, à Jérusalem. Ces prophètes savent que le temps est sur le point d'être accompli, ici dans Babylone. Très bien. Et quand Daniel tomba en prière, Gabriel lui apparut, non seulement pour lui révéler l'objet de sa demande, mais encore quel serait le déroulement du destin d'Israël et de la race juive de Babylone jusqu'à la fin des temps. Amen. Daniel demandait un petit morceau, et Dieu le lui a donné tout entier. Daniel avait essayé de découvrir combien de temps reste-t-il encore en ce moment. Le prophète Jérémie, ton serviteur, mon frère, a prophétisé il y a 68 ans que la captivité de ce peuple à Babylone serait de 70 ans. Toute l'ancienne génération a pratiquement disparu. Il y a 40 ans, mes frères, s'est levée une génération de purs pentecôtistes. On les appela les vieux combattants, mais ils se sont organisés. Ils se sont battus et disputés du mont Horeb jusqu'au mont Nebo, de ci, de là. Mais en définitive, ils sont maintenant au bord de la rivière. Le Seigneur va susciter une nouvelle génération avec un Josué qui leur fera traverser la rivière. La loi a échoué et Moïse marchait avec elle et Moïse échoua également. Mais Josué va prendre la suite. Nous découvrons que les organisations ont échoué également, mais l'Esprit de Dieu est toujours présent. Josué signifie Jésus notre Sauveur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va se manifester dans l'épouse et non pas dans une organisation, une dénomination. Le Saint-Esprit descendra sur plusieurs qui constitueront son épouse et c'est lui qui la tiendra prête à franchir le Jourdain. C'est ce que j'ai compris à la lecture du livre et Dieu sait ce que je cherche à réaliser maintenant, que je puisse réconforter son peuple et lui dire où nous en sommes. Aujourd'hui, aussi bien dans cette assemblée que dans tous les pays du monde entier où cette bande sera diffusée, c'est-à-dire que nous sommes à la fin des temps, Gabriel révéla à Daniel tout ce qui se passerait jusqu'à la restauration totale du royaume et l'installation du millénium dans celui-ci. Il dit, « Je suis venu te dire que d'ici la fin de la génération juive, il se passera 70 semaines. » Et maintenant, mes chers amis, poursuivons la lecture de Daniel, chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Quand nous en viendrons à la confirmation en 6 points de Gabriel, nous verrons de quelle cité il s'agit, quel en est son fondateur, combien de temps subsistera-t-elle, sera-t-elle reconstruite, si oui, à quel moment. Oh, que de grandes choses il reste à connaître. Très bien. Quand Dieu créa la terre et la plaça sur son orbite, quand je prêchais l'autre soir, le dimanche soir, comment se fait-il que rien ne manquait? Pourquoi notre globe tourne-t-il avec tant de perfection et de précision que l'on peut prévoir à l'avance et à la seconde près une éclipse de lune ou de soleil? Ce n'est pas au moyen d'aucune horloge se trouvant dans le monde que je peux vous le dire, car elle pourra avancer ou retarder de 2 ou 3 minutes par mois. Nous ne pouvons approcher de la perfection, car il n'existe qu'une seule chose qui soit parfaite, c'est Dieu. Dieu ou sa parole, c'est la même chose. Ainsi, la parole de Dieu est parfaite. Remarquez que les passages de Daniel, chapitre 9, versets 21 à 24, concernant la cité sainte, c'est-à-dire Jérusalem, ont été pris pour référence par Jésus-Christ dans le chapitre 24 de Matthieu. Le frère Collins m'a demandé l'autre soir ce qu'était l'abomination qui provoquait la désolation. Jésus en a parlé dans Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Jésus parle aux Juifs. Ils veulent savoir quand le temple de Jérusalem sera détruit, quand il sera reconstruit, à quel moment il n'en restera pierre sur pierre, combien de temps cela durera-t-il? Jésus répond, quand vous verrez l'abomination qui a fait la désolation établie en lieu saint. Quand Daniel se tenait dans le lieu saint, il dit, quand vous verrez l'accomplissement de ces choses, que celui qui lit comprenne de quoi il est parlé. Voilà pourquoi, mes amis, nous prions Dieu de rendre cela si parfait, pour que dans notre esprit il n'y ait aucune ombre de doute, car il ne nous est pas permis de donner nos interprétations personnelles sur ces choses. Cette révélation doit venir au travers de « Ainsi dit le Seigneur ». Pour ma part, je laisse tout cela de côté, jusqu'au moment où l'Esprit me l'aura révélé. le Seigneur doit nous révéler lui-même toutes choses, cette abomination. Rappelez-vous que le mot a une résonance rappelant-le « Fais sortir mon peuple d'Égypte ». Comme Israël fut enlevé, ainsi Jésus son Fils nous enlèvera. Et cela aura lieu exactement ainsi, aussi certainement que je suis ce soir devant vous. Et il le fera d'une façon particulière, afin que cela soit caché à l'Église. Quand nous examinerons de près les explications en 6 points du message de Gabriel à Daniel, nous constaterons que l'Église, n'étant pas au courant, continuera à surveiller à chaque minute le retour de Jésus, car elle ignore le moment de sa venue. Mais aujourd'hui, l'âge de l'Église arrive à sa fin. C'est pourquoi son retour est imminent. Tout est prêt. Ce sont ici les plus importantes écritures du livre. Pourquoi cela? Parce qu'elle parle de la fin de la nation juive, du peuple juif. Ce passage des 70 semaines révèle et raconte exactement le destin des Juifs depuis Daniel jusqu'à la fin des temps. Combien parmi vous m'ont-ils entendu dire, si vous voulez savoir quel est le jour de la semaine, consultez votre calendrier. Si vous voulez connaître dans quel temps nous vivons, surveillez les Juifs. Très bien. Il existe un calendrier de Dieu. N'importe quel théologien, tout étudiant de la Bible, vous diront que l'horloge du monde, c'est le peuple juif. Oh, quel temps allons-nous connaître? Il n'y a rien à voir avec les gentils, les païens. Les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 trompettes n'ont rien à voir avec l'Église des gentils. À ce moment-là, l'épouse sera dans la gloire. Tout cela ne concerne qu'Israël. Daniel, ton peuple et Jérusalem. Rappelez-vous que Dieu ne prend soin des Juifs que lorsqu'ils se trouvent dans leur patrie. Alléluia! Voilà le point capital à ne pas perdre de vue. Savez-vous que les millénaristes avaient prophétisé que la 70e semaine de Daniel prendrait fin à un certain jour de 1919? Tous se tenaient prêts avec leurs ailes pour être enlevés ce jour-là. Et plus tard, leur prophétesse, Mrs. Ellen White, tourna la difficulté en décrétant que le mouvement changerait de nom et qu'il s'appellerait Adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, ils ont encore changé le nom en Voix de la prophétie. 3 différents noms pour le même culte. Ils s'étaient trompés parce qu'ils avaient essayé d'appliquer ces 70 semaines à la fois aux Juifs et aux gentils, alors que la révélation de Gabriel à Daniel ne concernait que les Juifs. Cela est pour ton peuple. Or, Dieu ne se manifeste pas aux Juifs qui se trouvent hors de Palestine. Quand le Messie fut retranché à la 62e semaine, Israël fut dispersé, et ce n'est que durant ces dernières années qu'il a commencé à reprendre le chemin de sa patrie. Durant la période de l'Église païenne qui s'étend de la Pentecôte à l'enlèvement de l'épouse, aucun temps ne fut compté concernant les 70 semaines. L'enlèvement ne pouvait avoir lieu en 1919, mais je peux vous signaler qu'en 1919, la guerre s'arrêta d'une façon mystérieuse. Ceci nous est annoncé dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Je l'ai prêché souvent quand le message de l'ange dit « Retenez les 4 vents de la terre jusqu'à ce que nous scellions les Juifs, les serviteurs. » Aujourd'hui, ils attendent encore jusqu'à ce que l'âge des gentils soit terminé. Alors, quand Jésus descendra, il scellera les 144 000 Juifs qui auront reçu le Saint-Esprit. Relisons Apocalypse, chapitre 7, le verset 9 à 12. C'est Jean qui parle. « Je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force » soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Jean ne pouvait pas comprendre, mais en regardant derrière lui, il vit sur le mont Sinaï, ô gloire, un groupe de 144 000 Juifs qui n'avaient pas connu de femme, c'est-à-dire de dénomination. Ils n'avaient rejoint ni les organisations luthériennes, méthodistes, baptistes, presbytériennes, etc. Ils étaient restés Juifs orthodoxes. Et leur synagogue dans laquelle ils adoraient se trouvait sur le mont Sinaï. C'était les 144 000 après l'enlèvement de l'épouse. Voyez-vous? Ainsi, M. Smith, lui aussi, était dans l'erreur. En effet, comment situer l'enlèvement en 1919 et en retirer les 144 000 juifs? Puis voici de nouveau la doctrine de Russell qui affirme que Jésus est venu sur la terre en 1914-19. Il a donc enlevé son épouse à ce moment-là, et depuis il serait un corps mystique appelant du tombeau du grand-papa à celui de grand-maman, ressuscitant tous ceux qui sont des Russellites. Oh, c'est un non-sens, c'est contraire à la parole de Dieu. Non, monsieur, cela n'est pas vrai. Mais Dieu seul connaît la vérité, puisqu'il est la vérité. Dieu est celui qui connaît le jour et l'heure de l'enlèvement de l'épouse, et je pense qu'il nous aidera. Moi, je l'ignore, et je vous dis la vérité. Retenez bien toutefois que Dieu ne s'occupera d'Israël que lorsqu'il aura rejoint sa patrie, la Palestine. C'est ce que j'ai essayé de dire à ce frère qui est assis tout là-haut et qui parle de se rendre en Israël pour convertir les Juifs qui s'y trouvent. Tenez-vous loin d'Israël, ne l'approchez pas, vous tous qui parlez de les convertir. Avant la fin de ce message, vous le comprendrez, ainsi dit le Seigneur, par sa parole et par son esprit. Israël se convertira, la nation entière se convertira en une seule nuit. C'est la Bible qui l'affirme. Il existe un certain nombre de juifs qu'on appelle des renégats en Israël, qui ont abandonné la communauté juive pour vivre en Christ et qui sont sauvés. C'est vrai, je le crois de tout mon cœur, mais n'oubliez pas, aussi longtemps que des juifs se trouvent hors d'Israël, ils ne seront pas sauvés. Actuellement, ils retournent dans leur pays. Et ils seront sauvés avec toute la nation en un seul jour. La Bible parle ainsi. Un jour verra le retour à Dieu de tout Israël. Un phénomène puissant frappera Israël un jour prochain qui bouleversera la nation tout entière. Le prophète lui-même a prophétisé ainsi. As-tu fait cela en un seul jour? Les Juifs verront ce jour-là. À mon avis, il s'agira d'un puissant prophète qui se lèvera à Jérusalem et qui prouvera à toute la nation que le Messie est toujours vivant. Ce Messie qu'ils ont rejeté va revenir. Levi Pétrus a déjà adressé 1 million de Bibles en Israël. Il ne la connaissait pas. Si vous voyez avec quelle attention et respect il la lise, particulièrement ces Juifs d'Iran qui n'avaient jamais entendu parler du Messie. Quand ils décidèrent de retourner en Israël, ils ne prirent pas l'avion, car ils étaient de modestes laboureurs utilisant leurs anciennes charrues. Vous avez dû lire cet article les concernant dans une récente revue américaine, The Look Magazine. Il y eut également des reportages parus dans le Times. Sûrement, vous avez dû lire tout cela. Ils ne voulaient plus rester hors de chez eux d'Israël. Et leur vieux rabbin les haranguait au dehors et leur disait, « Souvenez-vous de ce que notre prophète a dit. Vous retournerez dans votre patrie sur les ailes d'un aigle. » Oh, les nations sont brisées. Israël se réveille. Voilà les signes que la Bible a prophétisés. Les jours des gentils sont comptés avec les horreurs qui les suivent. Ô vous les dispersés, retournez chez vous. Il est temps de vous réveiller, mes amis. Je l'ai dit et redit, mais un de ces jours, ce sera la fin et il sera trop tard. Le peuple juif continue à rejoindre son pays. En quel jour Dieu descendra-t-il et décidera-t-il de faire d'Israël une nation? Ce sera le jour où il n'y aura plus de possibilité pour un païen d'être sauvé. Je vous prouverai cela dans l'étude des 70 semaines de Daniel, et si je peux seulement préciser ces jours, je suis en train de rassembler des calendriers d'astronomie, des calendriers romains et celui de Julien. Il y a là un grand mélange, mais Dieu connaît toutes choses, et la vérité se révélera. J'ai vu tant d'églises diverses, tant d'organisations, tant de gens adorant ceci ou cela. Mais il doit y avoir une vérité quelque part. Il doit y avoir un vrai message quelque part. J'ai vu se lever des faux prophètes agissant comme ayant du discernement. Il doit bien se trouver quelque part un vrai prophète de Dieu qui les confondra tous. Je vois autour de moi des gens charnels jusqu'au bout des ongles qui mènent toutes sortes de vies. Mais il existe quelque part un Saint-Esprit authentique. Je vois partout des gens religieux essayant d'être pieux. Mais je sais qu'il existe un Dieu authentique quelque part, car ces gens-là ne sont que des hypocrites et des faux jetons. Mais il doit y avoir d'autres choses qui sont vraies. Un homme, un peuple, une église, un Dieu. Il doit se trouver quelque part une chose vraie, un modèle parfait, car tous ces gens-là cherchent à le copier, à l'imiter. Oui, il doit y avoir quelque chose de vraiment réel, de vraiment authentique quelque part. J'ai déjà mis en garde cette église au sujet de vos dons spirituels. Attention à vos dons. Tenez-vous-en à ceux de la Bible. Ne prenez pas un substitut alors que les cieux en sont remplis de véritables et de réels. Choisissons ceux qui sont vrais, ou alors n'en ayons pas du tout. Amen. Je vous ai dit que la fin est proche, et que Dieu ne protège Israël que lorsqu'il se trouve dans son pays. Voici un exemple frappant. Lorsqu'Abraham quitta sa patrie pour descendre en Égypte, qu'y arriva-t-il? Il était parti de son propre chef, se détournant de la volonté de Dieu. La bénédiction de Dieu s'éloigna de lui jusqu'à son retour dans sa patrie. Dieu ne s'occupa pas de lui. Il n'eut aucune vision ni quoi que ce soit jusqu'à son retour. Considérez Israël quand ils restèrent 400 ans en Égypte. Il n'y eut aucun miracle, aucun signe, aucun fait notable digne d'être inscrit dans l'histoire du Livre Saint. Ils allaient au temple, offraient l'agneau. Ils disaient « Je vous salue Marie » ou quelque chose d'autre. Et ils reculaient. L'année suivante, ils en étaient de même. Les prêtres discutaient entre eux. Rabbin un tel et un tel, nous élirons tel ou tel rabbin, celui-ci est plus instruit que celui-là, il connaît mieux les Égyptiens, etc., etc. Mais la première chose que vous devez connaître, c'est que les Égyptiens et tous ces Israélites, c'était la même chose. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Allez chez les méthodistes, les baptistes ou les presbytériens, et voici ce que vous entendrez. Oh, ici nous avons un diplômé venant de Hartford. Là, nous en avons un qui sort de Wheaton. Ailleurs, nous avons un tel ou un tel qui sont diplômés de telle ou telle université de théologie. Ou Bob Jones, nous avons un bachelier S-lettres. Nous avons un diplômé en divinité ou encore un autre diplôme S-ceci ou S-cela ou toute autre chose. Que tout cela représente-t-il? Un ensemble d'absurdités et de non-sens. Il en était de même en Égypte. Écoutez-moi bien, mes amis. Ainsi parle le Seigneur. Dieu ne s'occupera pas de son Église tant qu'elle ne reviendra pas à la source, dans sa patrie, au message de cette époque, de cette heure. Revenez à l'original, sortez de vos dénominations, qu'elles soient méthodistes, baptistes, presbytériennes ou pentecôtistes, assemblées de Dieu, unitariens, trinitariens, Église de Dieu, nazaréens, pèlerins de la sainteté, Église de Christ. Tous ces mouvements sont des mouvements Antichrist. Je réalise bien que cela impressionne le monde. Tous sont du démon, tous sont dans l'erreur. Oh, il y a des hommes de Dieu véritables dans chacun d'eux, un peuple mis à part dans chacun de ces mouvements. Mais ce qui n'est pas de Dieu, c'est l'organisation en elle-même. Et Dieu ne la bénira jamais. Il ne l'a jamais fait en aucun moment. Je demande à tout historien qui écoutera cette bande de m'écrire et de me signaler l'Église organisée que Dieu n'aurait pas délaissée et dont il aurait pu s'occuper davantage. Dites-moi quand il aurait relevé à nouveau l'Église luthérienne, wesleyenne, méthodiste ou pentecôtiste, une fois que l'homme les avait organisées. Ces organisations ont été abandonnées de Dieu, elles se sont corrompues et elles pourrissent, mais Dieu en tire des individus qu'il essaye de ramener dans sa patrie. L'homme par lui-même est si faible et si inconsistant qu'il essaye de créer un mouvement, de s'organiser dans une autre dénomination, ce qui le fait devenir un enfant deux fois plus du diable qu'il ne l'était au commencement. Mais, quelque part sûrement, Jéhovah possède un homme sur lequel il puisse poser ses mains et qui ne se mélangera pas à toutes ces organisations qui ne sont pas de Dieu. Celui-là, cet homme, aura la puissance de rétablir le peuple sur le rocher Jésus-Christ, de le ramener au point de départ, à l'authentique Pentecôte des premiers jours, au véritable Saint-Esprit originel déterminant les signes et les miracles des premiers jours de l'Église. Certainement, il en découvrira un quelque part qui ne s'effondrera pas sous la persécution, qui ne fuira pas, qui ne reniera rien, qui ne craquera pas, mais qui se maintiendra fermement devant lui, Jéhovah. Dieu n'a jamais béni Israël autrement que dans son pays, dans la mère patrie. Vous tous, méthodistes, baptistes, presbytériens, catholiques et pèlerins de la sainteté, nazaréens, église de Christ, ou membres des organisations de la Pentecôte, Dieu ne vous bénira jamais dans tous vos systèmes. revenez à la mère patrie, tout à fait au commencement, à l'expérience du jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit, la puissance du Dieu vivant, transforma ces milliers de personnes, embrasant leur cœur du feu de Dieu. C'étaient des signes authentiques et véritables qu'ils constatèrent. Ce n'était pas une sorte de télépathie préfabriquée, comme on appelle cela de nos jours. Personne ne se moquait de ces signes. Aujourd'hui, en Amérique, on croirait assister à une course de rats pour savoir qui possédera la tente la plus grande ou qui pourra rassembler les plus grands auditoires. Quel intérêt cela a-t-il pour Dieu? Dieu recherche un peuple honnête dans son cœur et non pas des multitudes. Quelle disgrâce que le but recherché par les organisations est de tâcher d'inscrire un millier de personnes supplémentaires sur leur registre. Dieu vous ordonne de revenir à la vérité, au Saint-Esprit, à une vie droite, à marcher en Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Comment peut-il bénir dans la voie où vous êtes? Il ne le peut pas. Dieu ne bénit Israël que s'il revient à la terre promise. Dès qu'il s'y retrouve, les signes et les miracles commencent à se manifester. Il envoya au milieu de son peuple un homme du nom de Moïse. Fut-il choisi à cause de sa théologie dans le vent? Avait-il un diplôme de bachelier lettres? Posait-il les appellations de docteur en divinité ou de docteur est-ce ceci ou cela? Non, il fut envoyé avec la puissance de Jéhovah et avec un message, quittez ce pays et retournez chez vous à la maison. Oh, vous les dispersés, retournez chez vous. Depuis près de 2000 ans, les Juifs ne sont plus en Palestine. Ils ont été dispersés aux quatre coins de la terre. Et si nous examinions tout cela en détail, ce message durerait des semaines et des semaines. Nous pouvons suivre l'histoire d'Israël quand, après avoir rejeté le Messie, il fut dispersé vers toutes les nations existant sous le ciel. Nous pouvons retrouver une époque plus reculée au temps de Jacob Israël dans les chapitres 44 et 45 de la Genèse. Nous verrons comment Dieu bénit les 12 patriarches et comment il leur prophétisa les régions qu'ils habiteraient dans les derniers jours. Je peux vous préciser exactement où se trouve aujourd'hui chacune des tribus d'Israël dans les nations qui leur avaient été assignées. Elles y sont aujourd'hui. Les Juifs que nous connaissons généralement ne sont pas les Juifs véritables d'origine. Le véritable Juif est ce véritable orthodoxe qui ne s'est pas souillé dans les choses de ce monde, qui est resté fidèle à sa religion sans joindre d'autres églises. Ce sont ceux-là qui en ce moment retournent au pays. Ils se nourrissent de pain et de fromage et ils vivent au flanc des collines. Ils ne peuvent entrer dans la vieille cité de Jérusalem. Ils ont dû se construire une cité particulière de ce côté-ci, sur un emplacement no man's land, se trouvant des deux côtés sous la menace des mitrailleuses. Mais les bourgeons vont bientôt sortir. Amen et amen. L'échéance est là. Aujourd'hui, les rejetons d'Isaac et d'Ismaël sont aux prises au sujet du territoire de la Palestine, mais il appartient à Israël. S'il vous arrive de visiter la nouvelle Jérusalem, il ne vous sera pas possible de passer de l'autre côté, la vieille Jérusalem où vivent les enfants d'Ismaël, qu'après beaucoup de difficultés. Mais prenez patience, il viendra un temps, alléluia, où les enfants d'Isaac, les véritables enfants de Dieu en prendront possession. C'est vrai, Jérusalem sera reconstruite. Le sacrifice quotidien sera rétabli, l'Antichrist fera une alliance avec eux pendant la 7e semaine de Daniel, et au milieu de la semaine, il brisera cet accord et ils se convertiront tous au catholicisme. L'abomination s'étendra parmi tous, et alors ce sera la fin. Soyez attentifs, 70 semaines, il y a près de 2000 ans que tous les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Aujourd'hui, ils commencent à revenir. C'est un peuple semblable à celui qui endurcit le cœur du Pharaon. C'est ce peuple qui a endurci le cœur d'Hitler. Des millions de Juifs ont péri. Eichmann à lui seul fit périr 6 millions de Juifs. 6 millions d'âmes humaines, de bébés, d'enfants, d'adultes. Eichmann, un seul homme. La Russie en expulsa beaucoup pour s'en débarrasser, car ils étaient détestés pour leur âpreté au gain. Ils y retournèrent, mais aujourd'hui cette petite minorité retourne en Israël. Amen, frère. Chaque année de nouveau, les Juifs retournent régulièrement dans leur mère patrie. Ils sont assez nombreux maintenant pour qu'ils s'y trouvent les 144 000 qui seront scellés. Qu'adviendra-t-il? Ils connaîtront leur Joseph. Ne vous en faites pas. Oui, monsieur, ils se tiennent tous là-bas, dans l'attente de ce qui va se passer, de cette heure même. Les Nations Unies, ces dernières années, ont déclaré Israël comme nation indépendante. Voilà pourquoi nous sommes près de la fin. L'épouse va être enlevée. À tout moment, Dieu peut dire « Israël est mon peuple ». À ce moment, le temps des gentils est terminé. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, en parlant de l'abomination de la désolation, « Ils abattront les murs de Jérusalem tant que durera la dispensation des gentils. » À ce moment-là, les Juifs retourneront dans Jérusalem pour reconstruire le temple, un temple d'adoration. Dans les prochains messages, nous examinerons cela de plus près, la 70e semaine des Sibus à atteindre. Maintenant, je vais vous lire ceci avant de terminer, car c'est le moment de retourner à la maison. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h. Si vous voulez, notez ceci sur vos papiers. Les 6 buts fixés dans les instructions de Gabriel à Daniel, ils sont définis dans Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Premièrement, pour faire cesser les transgressions. Et deuxièmement, pour mettre fin au péché. Troisièmement, pour expier l'iniquité. Quatrièmement, pour amener la justice éternelle. Cinquièmement, pour sceller la vision et la prophétie. Sixièmement, pour oindre le Saint des Saints. Voilà le sujet de notre prédication de ce soir, Dieu voulant. Nous verrons combien nous sommes près du but ensuite, dimanche prochain. Nous localiserons les différentes époques qui auront vu l'accomplissement de toutes ces choses. J'aime Jésus-Christ. Oh, je l'aime. Permettez-moi d'ajouter ceci. À l'heure exacte où Israël fut déclaré nation indépendante pour la première fois, 2000 ans après avoir été dispersé dans le monde entier, nous, en tant que peuple, à cette heure exacte, à cette même heure, l'ange du Seigneur me visita là-haut et avec l'Évangile me donna la même information. J'avais toujours eu cet espoir au fond de mon cœur, car j'étais persuadé qu'avant ma mort, j'aurais un rôle à jouer dans le retour d'Israël à Dieu. Je savais d'autre part que suivant Malachie chapitre 4, verset 6, le cœur des enfants serait ramené au cœur des pères. Voici également une autre anecdote qui me confirma le salut prochain d'Israël. Billy, mon fils, le frère Ern Baxter et moi, nous nous rendions un jour en Palestine. Nous avions rencontré chez le frère Argan Brahit des Juifs qui venaient d'écouter le message ici. Levi Petrus avait déjà envoyé là-bas 1 million de Bibles. Ces Juifs me dirent, ne serait-il pas possible de convoquer ici aux États-Unis un groupe de conducteurs d'Israël? Je ne parle pas de ces jeunes rabbins avec toutes leurs cérémonies, mais au contraire de ces conducteurs authentiques du peuple juif. Nous avons lu ce Nouveau Testament et nous savons que lorsque le Messie descendra ici, il nous parlera comme il a parlé à cette femme du puits, cette Samaritaine. Nous savons que Moïse a prophétisé que notre Messie serait un prophète. Quand vous aurez dit à ces docteurs de la loi que suivant les Écritures, le peuple juif devait être aveuglé, endurci de cœur afin de laisser la place aux gentils, qu'actuellement ce peuple est aussi endurci que du temps de Joseph, aussi convoquer cette élite juive pour qu'elle assiste à ce genre de réunion où, inspirée par l'Esprit de Dieu, vous entretenez cet auditoire païen des choses de Dieu. Et ils diront, si ce Jésus est bien le Messie comme vous le dites, alors il n'est pas mort, il est vivant. Et s'il est vivant, il a promis de vivre dans le cœur de ses serviteurs, de ses disciples. Si nous pouvons le voir, réaliser le signe du prophète, alors nous croirons qu'il est le Messie. Quelle chose parfaite! C'est exactement cela. Alors, qu'en adviendra-t-il? Une nation serait née en un jour parmi les dirigeants, les conducteurs, chacun dirait, nous le savons, nous en sommes sûrs. Si tous ces rabbins partent ainsi, il n'y a plus de problème, tout est réglé. Alors une nation pourrait naître en un jour, Israël naîtrait en un jour. Reparlons de ce voyage. L'avion me déposa au Caire, ainsi que mes compagnons, pour faire le plein d'essence. Cette escale devait durer de 15 à 20 minutes. Je me promenais dans le hall et j'étais sur le point d'acheter un de ces petits éléphants taillés dans l'ébène et portant des petites défenses en ivoire. C'était un souvenir que je destinais à mon ami, le docteur Sam Adair. Cela lui servirait de presse-papier. Soudain, quelque chose me dit, « Ce n'est pas encore l'heure, tiens-toi hors de la Palestine. » Je me disais, « C'est une idée qui te passe dans la tête » et je m'éloignais. La voix intérieure reprit, « Ce n'est pas l'heure. » Je me tenais alors à l'écart derrière le hangar, je levais ma tête vers Dieu et je dis, « Ô Dieu, était-ce toi qui me parlais ?» Il me répondit, ce n'est pas l'heure, ne va pas en Palestine, ce n'est pas le moment. Alors je pris mon billet de passage et je le fis modifier. Je quittai alors le Caire pour Rome, d'où je poursuivis sur les États-Unis via Lisbonne dans le Portugal. L'heure n'avait pas encore sonné. L'iniquité des gentils n'était pas encore arrivée à son comble. Il fallait attendre la dernière goutte qui ferait déborder la coupe. Ce moment-là est tout près. Alors, Dieu enverra à ce peuple quelqu'un qui sera un vrai prophète et qui le leur prouvera par des signes. Je suis sûr que Dieu le suscitera sans tarder, quel qu'il soit. Cela viendra. C'est ce que nous examinerons dans la prochaine leçon. Ne perdez jamais de vue que lorsqu'Israël recevra le Christ dans son cœur, l'épouse des gentils est déjà enlevée. Tous les autres gentils qui resteront sur terre passeront par la tribulation et subiront tous les fléaux annoncés. Comment se fait-il qu'un homme réputé, un grand professeur, puisse enseigner que l'épouse subira la tribulation alors qu'il n'y a aucun passage de la Bible qui le mentionne? Quelqu'un est venu me voir il y a peu de temps me disant, la sœur MacPherson nous a enseigné que l'Église passera par la tribulation, parce qu'à ce moment-là, nous serons des lumières brillant dans le ciel. Il s'agit alors d'Israël, et non des gentils. L'épouse des gentils est déjà partie, et elle ne passera pas par la tribulation. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 17, nous lisons, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire au reste de l'Église, qui n'a pas été enlevée, les vierges folles. L'épouse véritable a déjà été enlevée. Le repas de noces a lieu pendant la 70e semaine. C'est à ce moment précis que sur terre débutent les tribulations, quand les sauterelles et les persécutions s'abattent sur les églises séparées. Puis à la fin, selon Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 8, l'épouse arrive avec son époux. Alléluia! Roi des rois et seigneur des seigneurs, les vêtements trempés dans le sang, les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. Alors, l'épouse vient prendre sa place pour le millénium. Amen. Chantons. Béni soit le nom, ô béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, ô béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le nom, Jésus est le nom, Jésus est le nom du Seigneur. Jésus est le nom, ô Jésus est le nom, Jésus est le nom du Seigneur. Magnifiez son nom, ô magnifiez son nom, ô louez le nom du Seigneur, louez le nom, ô louez le nom, louez le nom du Seigneur. Comment agissez-vous? Est-il le plus grand dans votre vie? Vivez-vous une telle vie que l'on puisse dire de vous, voilà un serviteur de Christ, c'est ainsi que vous magnifierez son nom. Ne l'aimez-vous pas? Et maintenant notre petit cantique. Dans une mangeoire, il y a longtemps, je sais qu'il en est bien ainsi, un bébé naquit pour sauver les hommes de leurs péchés. Jean le vit sur la rive, un agneau pour toujours plus. Cet agneau, avec les sept sous, le seul dans les cieux et sur la terre, qui était capable de les briser, rappelez-vous. Dans une mangeoire, il y a longtemps, je sais qu'il en est bien ainsi, un bébé naquit pour sauver les hommes de leurs péchés. Jean le vit sur la rive, l'agneau pour toujours plus. Ô béni soit le nom du Seigneur, ô que son nom soit béni, ô que son nom soit béni. Ô béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. J'aime adorer, et vous? Nous ne venons pas à l'église pour entendre uniquement un sermon, cela va de soi, mais nous venons à l'église pour l'adoration, l'adoration dans l'esprit et dans la vérité. C'est la parole qui le dit. Voyez-vous, l'adorer c'est vous donner à lui, le lui exprimer. Donnez-nous un petit cœur sur l'homme de Galilée que j'aime beaucoup. Merci. Oh, j'aime cet homme de Galilée et de Galilée, car il a tant fait pour moi, il a pardonné tous mes péchés, il m'a rempli du Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Le publicain vint un jour prier dans le temple, il cria, ô Seigneur, aie pitié de moi, il fut pardonné de chaque péché, et une paix profonde l'envahit. Il disait, venez voir cet homme de Galilée, oh, j'aime cet homme de Galilée et de Galilée, car il a tant fait pour moi, il a pardonné tous mes péchés, il m'a rempli du Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Le boiteux peut marcher, le muet peut parler, et cette puissance parla avec amour au flot de la mer, l'aveugle peut voir, je sais que tout cela ne peut venir que de la puissance de cet homme de Galilée. Oh, j'aime cet homme de Galilée, car il a tant fait pour moi, il a pardonné tous mes péchés, il m'a rempli du Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Écoutons encore ce cantique. À la femme qui était au puits, il lui révéla tous ses péchés, qu'en ce moment-là, elle avait eu cinq maris. C'était lui, Jésus. Elle fut pardonnée de tous ses péchés, et une profonde paix l'envahit. Alors elle cria, « Venez tous voir cet homme de Galilée. Oh, j'aime cet homme de Galilée, car il a tant fait pour moi. Il m'a pardonné tous mes péchés, il m'a rempli du Saint-Esprit. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Je l'aime, et vous, de tout mon cœur, et vous. N'est-ce pas merveilleux? Oh, merveilleux, Jésus est pour moi. Qu'est-il? Le conseiller, le prince de la paix, il est le Dieu puissant. Oh, me sauvant, me gardant de tout péché, de la honte, merveilleux est mon Rédempteur, loué son nom. Courbons nos têtes maintenant et rendons-nous compte. Autrefois, j'étais perdu, mais maintenant, je suis délivré. Je suis libre de condamnation. Peu importe que les nations s'écroulent, Jésus m'a donné la liberté et un plein salut. Il me sauve, il me garde de tout péché, de la honte. Merveilleux est mon Rédempteur, loué son nom. Oh, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, prince de la paix, il est le Dieu puissant. Il me sauve, il me garde, merveilleux est mon Rédempteur, loué son nom. Oh, pensez-y. Ces deux cantiques sont répétés de nouveau un certain nombre de fois par l'assemblée tout entière, note de l'éditeur. Oh, combien j'aime Jésus, gloire à son nom. Oh, combien j'aime Jésus, levez vos mains, je l'attends. Oh, combien j'aime Jésus, parce qu'il m'a aimé le premier. Est-ce que vous aimez Jésus? Alors, vous devez vous aimer les uns les autres. Parce que si vous n'aimez pas ceux que vous voyez, comment pourrez-vous aimer celui que vous n'avez jamais vu? Prenez-vous les mains et chantons. Oh, combien j'aime Jésus, oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus, parce qu'il m'a aimé le premier. Je ne l'abandonnerai jamais. Levez maintenant vos mains vers lui. Je ne l'abandonnerai jamais. Je ne l'abandonnerai jamais, parce qu'il m'a aimé le premier. Réfléchissez un moment. Il nous a donné cette grande révélation. Ne l'aimons-nous pas? N'est-ce pas merveilleux? Combien reconnaissants nous sommes envers lui, notre Seigneur Jésus, qui ne nous oublie jamais. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ne sommes-nous pas réjouis dans l'étude des 70 semaines de Daniel? Oh, ne l'aimons-nous pas? Comment agit-il? Le cantique, ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire, divin sauveur, adorez-le dans votre cœur. Maintenant écoute ma prière, délivre-moi de tous mes péchés. Oh, qu'à partir de ce jour, je sois entièrement à toi. Durant ma marche dans le sombre labyrinthe de la vie, nous le faisons tous, noyé dans tous mes chagrins, que tu puisses être mon guide, conduis-moi au travers, Seigneur. Oh, ordonne aux ténèbres d'être changées en lumière, éloigne de nous les craintes et la tristesse, et que jamais je ne m'éloigne de ton côté. Raffermis mon cœur défaillant, inspire mon zèle, et que les ténèbres soient changées en lumière. Balaye toutes mes craintes, oh, qu'à partir de ce jour, je sois entièrement à toi. Oh, Jésus, nous voyons que nous approchons d'un grand événement. Le prophète Ésaïe en a parlé, Jérémie également. Daniel s'est penché sur ce qu'ils ont dit. Il en eut le cœur bouleversé. Il leva les yeux vers le ciel. Il jeûna couché sur le sac et la cendre. Il voulait entendre et pouvoir ainsi avertir le peuple. Seigneur, nous aussi, en lisant tes livres, les livres d'Ésaïe, de Jérémie, de Jacques, de Jean, de Luc, de Marc, de Matthieu, le livre de l'Apocalypse, tous tes livres, nous voyons que nous sommes près de la fin. Nous levons nos yeux vers le ciel dans la prière et dans les supplications pour découvrir en quel temps nous vivons, Seigneur. Nous commençons à voir la lumière au jour du jour qui pointe à l'horizon. Et Seigneur, nous venons à toi. C'est notre foi qui regarde à toi maintenant. Nous déchargeons de tout fardeau, de tout péché, de toute petite incrédulité qui nous obsède si facilement. Nous nous approchons du moment du puissant appel venant d'en haut, sachant que notre temps est limité. Bénis tous ces amis qui sont ici, Seigneur. Ils t'aiment, ils sont à toi, ils sont sortis. Tu es celui seul qui donne la révélation. Nous te prions de nous accorder toutes ces choses-là et nous nous confions à toi. Donne-nous une bonne après-midi d'études, Seigneur. Donne-nous l'intelligence pour comprendre. Ramène-nous ici ce soir bien disposés. Ô Seigneur, répands ton onction sur moi cet après-midi pendant que j'étudierai les 6 raisons de la visite de Gabriel à Daniel. Et si Gabriel est venu le visiter pour lui en donner ces 6 points, Seigneur, nous devons les connaître également. Nous sondons les Écritures et nous savons que nous approchons du but. Nous te prions de nous réserver, de nous révéler ce mystère ce soir. Dimanche prochain, Seigneur, ô Dieu, si tu séjours ici même, je ne sais comment, mais tu peux nous amener exactement au but. Exauce-nous, Père. Nous regardons à toi. Nous aimons les uns les autres et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a purifiés de tout péché. Maintenant, nous regardons à toi. Aide-nous, car nous comptons sur toi, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.